aujourd'hui, là, on est le 16 novembre 2024, on va faire écouter les chroniques outre-Atlantique d'Olivier Morel. Je rappelle aux auditeurs qu'Olivier Morel est un franco-américain universitaire et qui enseigne à la ville de Chicago. Et il s'appelle Le Temps Disloqué. Voilà. Hein. Donc, cette semaine, de la deuxième chronique post-élection d'Olivier Morel porte sur la manière dont le temps imprimé par Donald Trump revient à la conscience américaine. L'usage de l'outrage, quand l'outrage en chasse un autre plus violent que le précédent, c'est la pratique de saturation et de choc permanent désormais normalisée par M. Trump. Technique qu'il a portée au pouvoir qui tienne son mentor Roy Cohn, son ex-avocat mort en 1986, qui lui a enseigné cette technique de saturation de l'opinion et que Trump a mise en place tout au cours de sa première présidence. Aujourd'hui, il est question des nominations stupéfiantes aux futurs postes gouvernementaux de l'administration Trump et du contexte dans lequel une loi initiée par les républicains pro-Trump stigmatisant les adversaires politiques du gouvernement n'est pas passée le 13 novembre dernier dans une chambre des représentants qui sera bientôt acquise à Trump.
Séparation.
C'est un avertissement qui nous permet de nous interroger sur le temps historique généré par la technique de l'outrage pratiquée par Trump, le temps de l'exception, qu'Olivier Morel appelle le temps disloqué.
La nouvelle n'a pas fait grand bruit, tant le bruit, la saturation sonore, on devrait dire, qui entoure les premiers jours de l'après-élection du 5 novembre aux États-Unis, tant cette saturation sonore se brouhaha, écrase tout le reste aux États-Unis en ce moment. Il n'est question d'à peu près rien d'autre que le vacarme provoqué par les nouvelles incessantes et parfois, souvent, insensées qui sont livrées et débitées sur les ondes, sur les télévisions, sur les fils des médias sociaux et au-delà. Dans les États-Unis actuels, autour des anticipations et des spéculations au sujet des nominations du futur gouvernement que le président élu Donald Trump est en train de former. Alors, entre parenthèses, pour savoir, aux États-Unis, le président élu, après une élection générale comme celle qui a eu lieu le 5 novembre, succède à une cérémonie qui a lieu en janvier de l'année suivante. Donc cette cérémonie aura lieu en janvier 2025, d'intronisation officielle du président. C'est le moment où l'effectivité de la passation de pouvoir s'effectuera, se réalisera, effectuant ainsi la transition de Joe Biden à Donald Trump comme prochain président des États-Unis. Donc dans ce temps qui en fait est le temps suspendu entre une élection qui vient d'avoir lieu et une prise de fonction qui aura lieu dans quelques semaines, dans ce temps, la chronique de cette semaine portera plus précisément sur la notion de temps. Or, c'est de cette saturation du temps et de cette temporalité à la fois exceptionnelle et suspendue des semaines qui précèdent l'entrée en fonction de Donald Trump, que je voudrais parler aujourd'hui dans cette chronique, dans cette première chronique, dans cette deuxième chronique, en vérité, de la préélection. Donc c'est une nouvelle qui a été rendue publique le 12 novembre, il y a quelques heures, et qui nous annonce que une Chambre des représentants qui, désormais, nous le savons, à partir de janvier, sera aussi dominée par les républicains et donc aussi par les trumpistes, tout comme le Sénat, tout comme la Cour suprême. En gros, Donald Trump a tous les pouvoirs exécutifs et législatifs à sa disposition pour gouverner à partir de 2025. Eh bien, au Parlement américain, ce 12 novembre 2024, quelques heures avant le 12 novembre, un vote a eu lieu. Et c'est un vote très important. Il s'appelle HR 94-95. Ce nom de code un peu énigmatique porte en réalité sur un projet de loi déposé par les Républicains. Donc c'est aussi une annonce de ce qui pourrait se produire à partir du moment où, en janvier 2025, les républicains vont avoir le pouvoir, et des républicains loyaux à M. Trump. Eh bien, ce projet de loi proposait que des organisations jugé critique envers un gouvernement ne bénéficierait plus du statut fiscal qui protège, par exemple, les associations, les ONG et certains groupes culturels, ne serait plus non seulement exempté de taxes, mais aussi protégé d'une certaine immunité politique liée à la liberté d'expression à partir du moment où, d'après cette loi, ces organisations privées, donc de leur protection, de leurs avantages fiscaux, comme organisations non orientées vers le profit, seraient apposées d'un label d'organisations qui supportent le terrorisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que, d'après ce projet de loi, il était possible que, si le vote avait été favorable, il était possible de déclarer terroriste et donc dangereuse à l'intérieur d'un pays des organisations en vérité jugées contestataires vis-à-vis d'un gouvernement. Si cette loi était passée, elle aurait permis un basculement de l'action gouvernementale vers des systèmes de punition de nature politique contre certaines organisations. Et évidemment, parmi les organisations qui sont visées par ce type de loi, il y a les organisations de défense des minorités aux États-Unis. Et une organisation comme Black Lives Matter, par exemple, qui est toujours dans la visée des républicains pro-Trump, qui, bien sûr, tremblait à l'idée que cette loi puisse passer, et savait que ce type de loi était précisément dirigé par toutes sortes d'organisations qui continuent à se battre courageusement et de plus en plus pour les droits civiques, pour les droits des minorités, pour les droits des Afro-Américains. Dans les heures qui ont suivi l'élection de Donald Trump, les organisations défendant les communautés LGBTQ+, ont enregistré une explosion du nombre d'appels parce qu'on sait que dans la plateforme des républicains pro-Trump qui sont en train de triompher actuellement, il y a des projets de répression, de bannissement, voire de persécution de communautés LGBTQ+. Alors, pourquoi c'est important cette histoire ? Eh bien, c'est important parce que, évidemment, il va y avoir un nouveau Parlement dominé par M. Trump à partir du mois de janvier et que cette loi, dont, au sujet duquel le vote n'a pas fait vraiment de bruit, qui a été très peu rapportée par les médias et qui a été massivement rapportée par des organisations de défense des libertés, de défense de la liberté d'expression, de défense des minorités, etc., comme notamment l'ACLU ou Black Lives Matter, qui se sont beaucoup alarmés de l'existence de ce projet de loi et qui ont poussé un ouf de soulagement lorsqu'elle a été... lorsque le projet de loi a perdu à la Chambre des représentants. C'est important dans le contexte actuel, parce que, en vérité, le temps historique dont je parlais il y a quelques minutes au début, c'est un temps qui est marqué par une atmosphère, en vérité, assez familière, malheureusement familière, du rapport au temps qui dominait pendant la première présidence de Donald Trump. Là, tout d'un coup, on est replongé dans le passé, celui des années 2016-2020, où Trump était président et où il appliquait cette logique qui lui a été enseignée notamment par son mentor Roy Cohn, l'avocat radié du barreau Roy Cohn, qui a été le maître à penser de Donald Trump. J'avais mentionné cet avocat récemment, c'est lui qui incarne la figure dominante, la figure narrative du film The Apprentice. Je ne sais pas s'il est encore sorti aux États-Unis, mais en France, ce film The Apprentice. Mais Roy Cohn avait enseigné à Donald Trump notamment de toujours créer des volets d'outrage. C'est-à-dire que cette notion qu'un outrage chasse l'autre et que bien sûr, il n'y a aucune publicité négative. Toute publicité, y compris la négative, et peut-être en commençant par la publicité négative, est toujours positive pour quelqu'un comme Donald Trump. Il a fait toute sa carrière sur ça. Or là, on entre en plein dans ce rapport au temps. Dans ce rapport au temps où, par exemple, la secrétaire d'État, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est-à-dire la ministre de l'Intérieur que Donald Trump nous a annoncée, c'est Kristi Noem, qui est une gouverneure du Dakota du Sud, qui s'est illustrée au cours des derniers mois, dans son soutien inconditionnel de M. Trump, bien sûr, en annonçant que si elle avait des leviers de pouvoir un jour ou l'autre, ça c'était avant les élections, elle bannirait toute forme d'enseignement de ce qu'on appelle « critical race theory » aux États-Unis, qui est un concept qui vient des campus universitaires et plus précisément des chercheurs qui étudient l'histoire des discriminations et des persécutions raciales aux États-Unis. Eh bien que Kristi Noem avait annoncé qu'elle elle rendrait impossible l'enseignement, donc en quelque sorte, elle bannirait, ça veut dire d'une certaine façon, on peut imaginer que l'idée c'est de criminaliser tout discours qui tendrait à raconter l'histoire des persécutions sur lesquelles les États-Unis sont fondés. Kristi Noem est aussi une politicienne qui avait annoncé que le pays, les États-Unis, vivait une phase d'invasion actuellement. Ce qui ne manque pas d'ironie, puisqu'elle est gouverneure du Dakota du Sud, le Dakota du Sud étant un État où sont particulièrement présentes des communautés natives des États-Unis, et notamment la communauté Lakota, ce qu'on appelle les Sioux parfois, qui sont en vérité les Lakota, qui parlent une langue qui existait, un peuple, une culture qui existait avant l'invasion des États-Unis par les Blancs, par les colonisateurs, espagnols, anglais, bref, cette population qui a précisément fait acte d'invasion aux États-Unis. Alors Kristi Noem, Donald Trump la veut comme ministre de l'Intérieur. Et puis on continue. Tout ceci se passe à une rapidité fulgurante, qui est la caractéristique du temps historique dont je parle ici, avec l'annonce du fait que le ministre de la Défense, le futur ministre de la Défense des États-Unis, selon M. Trump, sera M. Pete Hegseth. M. Pete Hegseth, qui est ni plus ni moins qu'un présentateur de télévision, de la chaîne de télévision Fox News, qui est aussi un vétéran de l'armée américaine, et qui est ni plus ni moins la personne qui a été capable de déclarer il y a quelques mois, encore une fois avant l'élection, que l'armée américaine est un repère de promoteur de l'idéologie d'inclusion et de l'idéologie antiraciste. Il s'est moqué de ça et il a traité tout cela, cette idée qu'il y a une diversité à l'intérieur de l'armée américaine. L'armée américaine qui d'ailleurs est une des institutions des États-Unis qui le plus tôt s'est diversifiée du point de vue ethnique et racial, comme on dit aux États-Unis, avec des Afro-Américains qui ont très tôt fait partie de cette armée. Eh bien, monsieur le nouveau futur ministre de la Défense des États-Unis a déclaré que cette idée de la diversité au sein de l'armée américaine était « a bunch of garbage », je cite. « Bunch of garbage », c'est-à-dire une poubelle, en quelque sorte. C'était une idéologie de poubelle. Donc, il est contre la diversité. Et puis, et ça s'est passé il y a à peine quelques heures, il y a eu cette annonce qui a stupéfié l'Amérique entière. Et je dis l'Amérique entière parce que même les Républicains ont été stupéfiés par cette annonce. Eh bien, c'est l'annonce du nom du ministre de la Justice de M. Trump. Qui sera le ministre de la Justice de M. Trump ? Un homme qui a farouchement défendu M. Trump, qui a défendu des thèses qu'on appelle « white supremacist » aux États-Unis, c'est-à-dire des thèses de promotion de la domination blanche qu'il inspire, dans la manière qu'il a eue de défendre les partisans de la tentative du coup d'État du 6 janvier. C'est un homme qui appelle raciste tous les programmes d'inclusion, de la diversité et de l'équité et de l'antiracisme au sein des institutions américaines. Mais c'est un homme aussi, surtout, qui pendant de longs mois a fait l'objet d'une enquête interne à l'intérieur de la Chambre des représentants américaine pour des actes qui sont à ce stade des allégations, puisqu'on n'a pas les documents, pour des actes tournant autour d'accusations de pédophilie en particulier, et d'usage de drogue. Alors on n'a pas les documents qui constitue la véracité et peut-être la vérité de ces allégations, parce que ce monsieur Gaetz, c'est son nom, Matt Gaetz, nouveau futur ministre de la Justice, monsieur Gaetz, c'est l'équivalent d'un député, ce représentant de la Chambre des représentants américains qui vient de Floride, Matt Gaetz, est accusé, donc, disais-je, d'usage de drogue et de détournement de mineurs et de sexual misconduct, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire de mauvaise conduite à caractère sexuel, au titre d'une enquête qui a lieu à l'intérieur de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants devait voter ce vendredi 15 novembre, sur la diffusion publique de son rapport qu'elle a terminé d'établir. Et un rapport que, apparemment, au vu de la réaction des membres de la Chambre des représentants, autant démocrates que une grande partie des représentants républicains, ce rapport est accablant pour M. Gaetz. On peut le supposer, vu la réaction des membres de la Chambre. Eh bien, M. Gaetz a été nommé futur ministre de la Justice par Donald Trump le 12 novembre. Et dans la foulée, quelques heures plus tard, il a démissionné de la Chambre des représentants. Ayant donc démissionné de la Chambre des représentants, le rapport qui a été fait sur lui est caduc. Et donc on en est à se demander maintenant, et on ne sait pas ce qui va arriver, si la Chambre des représentants diffusera jamais le rapport qu'elle a produit au sujet d'un de ses membres, M. Matt Gaetz, futur ministre de la Justice. Qu'un ministre de la Justice soit ministre de la Justice, après avoir fait l'objet d'une telle enquête, est bien sûr un événement alarmant. Mais encore une fois, ça n'a rien d'inédit. C'est-à-dire que quand on regarde la liste des nominations qui ont marqué la présidence Trump dans les années 2016-2020, eh bien, il n'était pas étonnant de découvrir, par exemple, que parmi les nommés de son gouvernement chargé de la régulation des règles environnementales, par exemple, il y avait des représentants du lobby de la pétrochimie. On est habitué à ça. On sait aussi que M. Trump veut nommer Robert Kennedy, donc un des membres de la famille Kennedy qui est un soutien de Trump, comme ministre de la Santé. Or, M. Kennedy s'est beaucoup illustré dans sa volonté de mettre fin à des programmes de vaccination, voire à la recherche sur les vaccins. Donc, ceci fait partie de ce qu'on appelle le playbook de Donald Trump. Mais ce qui est marquant dans ceci, et c'est pour ça que je voulais revenir et terminer sur la notion de rapport au temps dans cette histoire, c'est que il y a un rapport au temps particulier qui est en train de revenir à la conscience des Américaines, des Américains, des gens qui vivent dans ce pays, qu'ils soient Américains ou non d'ailleurs, ou Américaines. Et c'est ce rapport au temps dans lequel un outrage chasse l'autre et dans lequel il y a une telle volée, une telle explosion permanente d'outrage qu'en vérité, on est dans un état de commotion. C'est-à-dire que dans la temporalité où nous nous trouvons, c'est comme si la semaine qui s'est écoulée ou les 10 jours qui se sont écoulés depuis l'élection du 5 novembre a déjà duré plus d'un siècle. Il y a tellement d'outrages, tellement d'événements, de nominations par exemple, comme celle que je viens de citer, qui dépassent les limites de l'entendement, qu'en vérité je me suis dit que j'allais relire le texte très fort d'une philosophe qui est morte trop tôt, à la fin des années 90, à l'âge de 50 ans, et qui s'appelle Françoise Proust. Et Françoise Proust écrit justement sur Walter Benjamin, qui est un philosophe, un écrivain, un penseur juif allemand, qui était anti-nazi, qui a dû fuir l'Allemagne, et qui d'ailleurs était un ami de la famille de Stéphane Hessel. Peut-être on se souvient de cet ambassadeur de France, ancien résistant, qui était Stéphane Hessel. Stéphane Hessel m'avait raconté un jour sa dernière rencontre avec Walter Benjamin à Marseille, dans un petit hôtel de Marseille, au mois de septembre 1940, quelques jours avant que Walter Benjamin ne parte dans les Pyrénées et ne tente de franchir la frontière espagnole pour échapper aux persécutions. Walter Benjamin sera repris par la police et mettra fin à ses jours. Eh bien, le texte de Françoise Proust porte précisément sur Walter Benjamin, sur cette figure de Walter Benjamin et sur plus précisément le fait que Walter Benjamin est un grand penseur de l'histoire dans les temps d'exception. Qu'est-ce que c'est l'état d'exception? Il me semble que ce que je décris quand je parle de l'outrage, d'un outrage qui chasse l'autre, et de cette notion du temps qui dure et qui va tellement vite qu'on a l'impression qu'à la fois une journée dure des siècles et quelques millisecondes, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette dislocation du temps, sinon précisément l'état d'exception? Et qu'est-ce que c'est cet état d'exception qui devient la règle? C'est ça la question que se pose Benjamin. Bien sûr, Benjamin pense à l'état d'exception parce qu'il est en train d'écrire contre le nazisme à l'époque. Et qu'il écrit que précisément l'état d'exception est un des marqueurs du totalitarisme nazi dans ce qu'il suspend le rapport au temps en proclamant l'état d'urgence permanent. Alors, Françoise Proust montre que dans la conception classique du temps, il y a en gros trois mouvements qui s'effectuent dans la conscience. Il y a un événement qui se produit, d'abord une phase de compréhension, ensuite une phase qu'elle appelle la phase de reproduction ou disons de mémorisation, c'est-à-dire on se rend conscient du fait qu'il est en train de se passer quelque chose, et puis enfin, dernière phase, une phase de reconnaissance, où non seulement on reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, on mémorise ce qui s'est passé, mais aussi la reconnaissance où on se reconnaît et on se trouve les uns les autres pour faire face à un événement historique. Bref, c'est l'opération qui consiste à produire, à tenter de produire, à partir du choc qu'est l'événement, d'essayer de produire quelque chose qui ressemblerait à une sorte d'unité de sens. Voilà. Or, écrit Françoise Proust, et là je la cite, et nous parlons précisément de l'ère dans laquelle nous sommes entrés en 2016 et qui semble reprendre et se reproduire désormais en ce mois de novembre 2024, après le 5 novembre. Or, écrit Françoise Proust, et je finirai ainsi, que représente le présent moderne? Je cite: la dislocation de l'unité de l'expérience, l'impossibilité de l'une quelconque des trois synthèses, c'est-à-dire, purement et simplement, l'éclatement de l'expérience. Entre parenthèses, les synthèses, c'est ça, hein, c'est ce phénomène de. D'abord, on essaie de comprendre ce qui nous arrive, ensuite, on essaye de mémoriser, d'imprimer, comme on dit en français vulgaire, là. C'est quelqu'un qui imprime, voilà, c'est quelqu'un qui comprend. On essaye de comprendre, c'est-à-dire de reproduire ce qui s'est passé. Et la troisième synthèse, on reconnaît et on se reconnaît et on commence à parler de ce qui s'est passé. On essaye de faire sens, on essaye de produire du sens. Eh bien, cette synthèse aujourd'hui, indique Françoise Proust, ne serait précisément plus possible. Et pourquoi ça ? Bien précisément parce qu'on est entré dans le temps de l'exception, dans l'état d'exception. Et que la temporalité dans laquelle nous sommes entrés est marquée par une expérience de destruction de l'expérience, qui est justement cette notion d'exception. Alors Françoise Proust poursuit, et là je la cite à nouveau. À chaque instant, la conscience moderne est bombardée de données sans suite ni consécution. Automatisation et morcellement des activités, prostitution des biens et des personnes en marchandises, atomisation des masses, rafale d'informations, voire bombardement d'obus et de missiles. Le monde a déclaré la guerre à la conscience. Traumatisée, soumise à une série incessante de chocs, à un déferlement d'agressions, elle n'est plus en mesure de faire face et de dominer ses objets. Elle, dont le rôle est de protéger des sensations, se voit débordée. Non pas que les données soient trop multiples ou trop nombreuses pour pouvoir être organisées, mais elles sont si difformes et si monstrueuses, si excentriques et si violentes qu'elles ne sont pas maîtrisables. La conscience n'est plus capable d'enregistrer chaque donnée dans sa singularité, d'en emmagasiner le contenu précis à sa place déterminée dans la mémoire et de la maintenir à sa disposition continue. Elle n'est plus en mesure de vivre chaque expérience et d'en conserver un souvenir vivant. Toute une série de données se presse avec violence, en désordre, contre la conscience qui se disloque et vole en éclats. À chaque instant, la conscience est comme blessée, voire mise à mort, de même que chaque donnée, en s'écrasant sur la conscience, se pulvérise et se pétrifie. Ainsi, la conscience est bien marquée, mais elle n'est que cela, marquée, balafrée, signée, soufflée. Fin de citation. Voilà, c'est la conscience marquée, balafrée, signée, soufflée, qui s'exprime dans ses paroles soufflées, dans ses paroles blessées, dans l'anticipation de l'état d'exception à venir.
Trick it one time, she sure gonna do it again, and I'm crying, hey. to California, from Bethany, miles far away. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.